Alors, nous sommes en compagnie de Maël et Joris du groupe Corbeau.
Salut. Comment devient-on un célèbre groupe de post-rock?
Bah, je sais pas, c'est pas notre code, donc on n'a pas encore trouvé la recette, mais on y travaille. Mais...
c'est le mot célèbre, non, c'est pas encore notre cas, effectivement.
C'est pas encore notre cas, effectivement, mais je sais pas comment on devient célèbre. Faut faire de la bonne musique, faut faire un truc original, faut faire un truc voilà, qui plaît dans la veine, voilà, et puis dont tu te fais plaisir à faire aussi, c'est important.
Et puis je pense que si on veut devenir célèbre, faut pas faire du post-rock non plus.
Oui, oui. C'est quand même un genre plutôt de niche, voilà, qui est peut-être plus compliqué, dans lequel il est peut-être plus compliqué de devenir très célèbre, comme tu dis. Voilà, ou peut-être mieux faire de la dance music ou de la pop, si tu veux atteindre un public conséquent.
Comment votre groupe s'est-il formé?
Ben, en fait, ce groupe-là, du coup, il s'est formé fin 2009, début 2010.
Ouais.
Hein, bon, en fait, c'est toi qui vas raconter le début, parce
ouais,
que tu y étais.
Mais oui,
je t'appelle un Christ en
cours de route. On a commencé à 3. Moi, je suis Joris, batteur du groupe. On a commencé à 3 avec Mick et Johan, qu'on a commencé en trio basse-guitare, basse-batterie. Voilà, donc il n'y avait pas de chant non plus à la base. On a commencé à 3, on a sorti une première démo, mais juste en numérique, sur MySpace et compagnie à l'époque. Et donc voilà, on faisait nos petites... je ne sais même pas si on a dû faire un concert à 3. Et en fait, vite fait, Maël était arrivé justement pendant l'enregistrement de cette première démo qu'on avait fait ici à Quimper, au studio du Chapeau Rouge. Maël était arrivé pendant la session d'enregistrement parce que donc Maël et moi, nous avions joué ensemble dans d'autres projets. Et du coup, Maël, donc deuxième guitariste, s'est greffé. On peut dire qu'au début, il a carrément tapé un Christ.
Ouais.
Et puis en fait, nous, on l'a gardé parce que c'était bien ce qu'il faisait. Donc on s'est dit, bon, allez, on évolue, on se met à 4. Donc ça, c'était 2010. On a sorti un album en 2011. Aussi composé à 4, enregistré au Polarité aussi. Mais à Ergarmel, là où vous connaissiez, l'endroit que vous connaissiez avant, qui est donc maintenant le nouveau Max, a évolué vers ici, le nouveau Max. Ensuite, on a pas mal joué, pas mal défendu cet album. On est allé jusqu'en Allemagne le défendre.
Le Lot Festival.
Ensuite, on a sorti un EP, mais alors, un EP, c'est avec moins de morceaux. Il y avait quoi, 5 morceaux dessus ?
Il y avait 5 titres dessus, ouais.
5 titres dessus, mais c'était un split CD, c'est-à-dire qu'on était deux groupes sur CD.
Ah, ok.
Et je sais pas si vous l'aviez.
Volteface et...
Voilà, exactement. Et donc, Volteface, c'était un groupe de Rennes, de post-rock, un peu plus... électronique, ouais. Et du coup, on a fait deux morceaux de chaque groupe et puis un morceau commun où les deux groupes jouent ensemble. Voilà, on l'a sorti en 2012.
C'était après les Jeunes Charrues,
ouais,
c'était fin
2012.
Est-ce que ça a bien marché?
Bah écoute, on en a plus, donc
on
les a tous envie. Il y en a 1000 qui sont partis. Pour nous, c'est plutôt bien. Et ensuite, on a joué. On a fait des trucs comme les Vieilles Charrues, des petites tournées voilà, à notre échelle, mais... c'était déjà bien pour nous. Et ensuite, on a sorti un album, là, en novembre 2014. Je dis là, mais ça fait déjà plus d'un an. Voilà, sorti notre troisième CD en novembre 2014, qu'on a défendu aussi pas mal sur scène. Et là, donc, on bosse depuis, six mois, depuis mai, même quasiment mai-juin, on a commencé à bosser là-dessus. On bosse sur un nouvel album qu'on va enregistrer, là, ça y est, ça se concrétise. On l'enregistre samedi, on entre en studio pour donc plus d'une semaine, hein, 8-9 jours. Mmh. On va l'enregistrer à Laval. Donc voilà, c'est un CD qu'on cofinance, qui est financé de manière participative. Voilà, on fait appel aux gens qui connaissent et supportent Corbeau, mettre des ronds et nous aider à financer l'album. Et il sortira le 23 mai. Voilà.
Okay.
Donc voilà un peu l'historique
et le devenir de.
Juste avant notre tournée, voilà, la tournée commence le 26. 26 à la Carène à Brest, 27 ici et même, donc au Nouveau Max à Quimper. Et ensuite, on part un peu plus loin. Mais
okay.
Voilà pour les dates.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser particulièrement dans le post-rock? Est-ce que Mogwai en est la source?
Aux prémices du projet, on avait tous d'autres groupes avec dans une veine plus rock, sens large, mais avec du chant, tout ça. Et par contre, en parallèle de ça, on écoutait beaucoup de musique plus instrumentale, dont Mogwai, tu citais à juste titre, groupe qu'on écoutait beaucoup au début, peut-être un peu moins maintenant, mais qui nous a certainement influencé à une époque. Et donc voilà, qu'est-ce qui nous a... Voilà, c'est plutôt ce qu'on écoutait, en fait, comme genre de musique. Et on s'est dit, bah tiens, si on faisait un groupe, donc à la base, c'était ça, quand on était encore en trio, on s'était dit, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un groupe, tous les trois ensemble, sans chant, pour le coup, contrairement à ce qu'on fait dans nos autres projets, nos autres groupes. Et donc voilà, ça a commencé comme ça.
Depuis, ça a pas mal évolué, finalement.
Depuis, ça a beaucoup évolué.
Le côté post-rock, on l'a plus trop. Enfin, tout ce qui est... Enfin, on se pose la question, on se posait encore la question hier soir avec Joris de ce qu'on faisait exactement, si c'était toujours du post-rock ou pas. Il y a un côté un peu plus...
Voilà, post-rock, c'est large aussi, donc c'est dur à définir, mais post-rock, t'as des trucs comme... Mogwai, comme tu citais, jusqu'à...
Journey in the Sky.
Voilà, bon, ça, c'est des trucs un peu...
Plus planant, This Will Destroy You.
Populaire, voilà, et, mais ça va aussi, pour moi, jusqu'à des trucs...
Cult of Luna, certains mettent Cult of Luna dans le post-rock, par exemple.
Fugazi, post-punk, je sais pas, un truc comme ça. Enfin, c'est ça, finalement assez large. J'ai l'impression que ça qualifie aussi beaucoup de groupes qui font du rock indépendant, tout simplement. Donc, maintenant, ça a changé. Nous, notre musique est un peu plus sombre...
plus agressif, plus noise aussi.
Noise.
Certains diraient qu'on fait du post-hardcore maintenant, qui n'est pas forcément vrai non plus.
Parce que faut écouter et puis.
Ce qu'on fait.
Ce qu'on fait. C'est pas exclu qu'il y ait un peu de chance sur un prochain album par exemple, donc tu vois, tout se renverse un peu.
Ouais. Vous évoluez
voilà.
Quoi.
Corbeau évolue. Tout à fait.
Le post-rock était une musique purement instrumentale.
Pourquoi elle est purement instrumentale? Alors, il y aurait des exceptions à la règle, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de groupes post-rock qui sont instrumentaux, comme on disait. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je pense qu'à un moment, les gens ont eu envie de faire autre chose. De faire autre chose, oui et non, mais d'ouvrir sur de la musique rock. Peut-être qu'il va aussi dans d'autres styles musicaux instrumentaux, comme t'as beaucoup de jazz qui est instrumental, qui certains... Les instruments comme les sax, trompettes, guitares peuvent faire donc des chorus, peuvent prendre le rôle de la voix. Et donc je pense que c'est aussi ça qu'ont voulu faire des groupes historiques comme Mogwai dans le post-rock, à savoir utiliser leurs instruments en guise de voix, quoi, de lead. Je pense que c'est pour ça.
Comment vous vient l'inspiration et combien en avez-vous composé?
Ouais, mais c'était sur le mode de, la façon de composer, c'est ça la,
oui.
La question. Ouais. Bah en fait, c'est alors ça a un peu changé aussi ces derniers temps, j'ai l'impression. Mmh. Initialement, au tout départ, ça, c'était toujours soit Mick, soit Joris, la plupart du temps, qui se pointaient avec des riffs en répé, quoi. Et puis ça buffait un peu autour de ça, ça composait, ça composait un peu. En jouant, en faisant tourner le riff et en développant autour de ça.
Toujours en partant d'une idée qui était. Une idée qui était apportée par un membre du groupe, peu importe lequel, qui arrivait avec une idée de morceau, de riff, de trucs, et ouais, on buffait, comme tu dis, autour.
Maintenant, par exemple, de nouvelles compos peuvent être travaillées déjà à l'avance, bien avancées. Je pense à... Enfin, Joris, souvent, arrive avec un truc à nous faire écouter. Il a déjà, autour du morceau, il a déjà enregistré des batteries ou mis des basses, guitares. Enfin, déjà avancé les choses et apporte une idée déjà bien plus orientée. Et après, nous, on le retravaille effectivement en le jouant tous ensemble. Enfin, il y a des...
Il y a peut-être une base qui est plus... entre guillemets informatique maintenant où on peut se permettre facilement d'enregistrer des morceaux entre guillemets à l'arrache sur un ordi avec une guitare branchée directement dans l'ordi et une batterie synthétique faite avec un clavier et donc mais qui permettent d'avoir un aperçu qui permettent d'enregistrer une idée que tu as un jour et du coup d'arriver à d'envoyer ça aux autres membres du groupe après puis de dire bah, c'est ça que j'ai pondu qu'est-ce que vous en pensez et du coup ensuite donc tu pars en répé avec quand tu arrives en répé t'as déjà chacun sait déjà à peu près ce qu'il doit jouer en se basant sur ce qui a été envoyé par l'internet hein. et donc voilà ce serait peut-être plus notre méthode notamment pour les derniers morceaux où Matt a beaucoup mis aussi ça est arrivé avec beaucoup d'idées beaucoup de riffs qui nous envoyait comme ça par internet et puis faut dire qu'on a une situation géographique ici qui nous permet pas de répéter souvent donc quand on répète on a plutôt tendance à répéter 3 jours de rang enfin de se voir sur des sessions relativement longues vu que voilà Maël et moi sommes sur Nantes et les deux autres sont sur Quimper donc voilà on essaye d'optimiser les moments où on se voit pour aller à l'essentiel et répéter longuement. Et quand on se voit pas, chacun essaye de composer un peu de son côté. Et on échange comme ça par l'internet.
D'accord.
Et la fin de ta question, on a tout répondu ou je sais plus.
Combien de morceaux on a composé ? Non, c'était pas ça.
Ah oui, combien de morceaux on a composé ? Sur le premier album, il y avait...
8.
8 ou 9 ?
Je sais plus.
8, ouais, peut-être 8. Sur le split, il y en avait 2, donc ça fait 10. Sur l'album, il y en avait 6, ça fait 16. On n'a pas composé beaucoup de trucs.
Non, on n'est pas
très productif. Il y a 16 morceaux sur 3ème, et puis là, il va y en avoir 6, donc ça va faire 22 musiques.
T'as oublié qu'il y a des 2A.
Ouais, bon, plus. plus et j'ai pas compté Carton 910 qui n'est pas sur l'album. Donc ça fait ouais, 25, on va dire.
25 musiques. Alors, quel concert vous a le plus marqué et pourquoi ?
Je sais pas, on m'a posé la question si l'autre jour j'étais incapable de dire lequel. Maintenant, il y a deux souvenirs.
Il y a Carré, quoi, Vieille Charrue. Il y a
les Vieilles Charrues qui font partie des gros concerts. On n'a pas l'habitude de jouer devant non plus des centaines de personnes, voire des milliers. Or là.
Là, c'était plus des milliers que les centaines.
C'était plus des milliers que des centaines, quoi. J'ai Charlie, on a joué le samedi soir à 20h, un truc comme ça.
Ouais.
20h30, je sais plus. Et donc oui, il y avait du monde devant la scène, c'était assez impressionnant. Et donc, tu avais tous les premiers rangs, c'était nos potes. C'était rigolo, on s'était retrouvés à Carré. Et puis, pour le coup, bon sang, on était montés sur cette scène, quoi, pour y jouer. Et donc, c'était assez impressionnant, je sais pas, avec 4000 personnes.
Je sais pas combien.
Je sais pas. Et un deuxième truc aussi dans le même genre, et alors là, c'était d'autant plus.
Le Lot ?
D'autant plus surprenant parce que donc, c'était le Lot Festival dont on parlait tout à l'heure en Allemagne.
Ah oui.
Et, Et on avait été programmé sur ce truc-là, mais sans trop savoir d'où le programmateur avait acheté notre CD.
Et vous avez découvert sur un concert d'un groupe français qu'il suivait.
Voilà, c'est ça.
Mais quand
on était allé jouer là-bas, on savait pas trop pourquoi on finissait là-dedans. Enfin,
moi, je croyais que c'était une farce. Quand j'ai vu le premier mail, je pensais que c'était une blague au départ, cette histoire de programmation en Allemagne.
Et un festival qui existe depuis les années 70, un vieux truc, on a joué devant 7000 personnes, je crois.
Ouais.
C'était un accueil digne de tête d'affiche. Et donc, on avait joué là-bas, donc ça c'était un très très bon souvenir. Et donc, comme tu disais, on avait joué là-bas parce que, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'on avait joué à Pont-l'Abbé l'année d'avant, et avec un groupe français d'ailleurs,
Ouais, français.
Que le programmateur allemand suivait sur internet. Et du coup, le programmateur allemand avait dit, tiens, ce soir, il joue, le groupe que je suis, là, joue à Pont-l'Abbé, tiens, il y a qui en première partie? Il y a Corbeau, tiens, je vais aller écouter. En fait, ça s'était fait comme ça, et un concert, voilà, pour nous, qui est un bon souvenir, mais voilà, où tu joues dans ton coin, enfin, voilà, c'était Pont-l'Abbé, c'était dans le coin, c'était dans le
29, c'était
chez nous, et ben, on pensait pas que ça nous mènerait devant 7000 personnes.
Finalement, il n'y a pas de petits concerts, quand tu te dis ça, il n'y a pas de... Enfin, tous les concerts ont leur importance.
T'es jamais à l'abri de... Même sur des trucs où tu t'y attends pas, de finir d'être appelé pour jouer ailleurs. Enfin bref, c'est un très bon souvenir.
Donc là, le stress était au niveau.
C'était au rendez-vous, ouais.
Et en fait, à chaque fois, moi je pense à ça, sur ces deux gros concerts-là, on a eu des problèmes techniques aussi pour rajouter la dose de stress. Parce qu'à l'époque, au Vieille Charrue, on utilisait un ordi, un Mac, pour envoyer en plus des. Il y avait des samples, on utilisait des samples sur scène. Et le truc a planté complètement. On faisait les balances, on faisait l'install, et là, l'ordinateur, il disait, merde, concrètement, les gars, vous allez faire votre set sans sample. Donc il y en avait ça, on n'avait pas le temps de repenser un peu les morceaux, à se dire, merde, comment ça finit à ce moment-là, enfin. Et moi, j'ai un mauvais souvenir de stress aussi, au LAD, c'est que j'ai fait tomber ma guitare par terre comme un âne, juste avant de jouer. Une guitare avec un Floyd, avec des machins, enfin, un peu chiante à régler, et du coup, voilà, stress tout le concert, que ça sonne faux, que ça sonne mal, qu'on se...
Ça a été bien tombé, justement.
Juste à plat, de ma hauteur. Blanc.
Alors, par quel moyen avez-vous commencé à vous faire connaître ?
On a commencé à l'échelle quimpéroise, du coup, on a commencé par là. Comment continue là ?
Je réfléchissais.
Tu commences par essayer de te faire un petit nom dans la ville d'où tu viens, en l'occurrence pour nous, Quimper. Voilà, donc on a essayé de commencer déjà par jouer... le plus possible ici, et puis...
ici et alentour.
Et alentour, quoi, Finistère, on va dire. On a eu une bonne aide, un bon accompagnement sur le début, et toujours d'ailleurs, mais des polarités, donc l'association à Quimper qui propulse cet espace, le Novomax, qui nous a fait jouer notamment à la Place Saint-Corentin pour la fête de la musique, donc en 2012. Hein.
2011, ouais.
Et donc ce qui nous avait, ce qui était notre première entre guillemets grosse scène.
C'est ça, ouais. À une heure de passage. C'est pareil, la place Saint-Corentin était chargée, bien remplie ce soir-là. Et tu y étais ?
Oui.
Ah bah voilà. Elle était bien chargée. Puis ouais, je pense qu'à partir de cette soirée-là, c'est vraiment là où on a eu la visibilité sur Quimper, quoi.
Voilà, ensuite, tu essayes de jouer ailleurs que chez toi. t'essayes de développer. On a pas mal tourné en Bretagne, on est rarement...
Au démarrage, on a été beaucoup aidés aussi. Enfin, on a fait les Hivernautes aussi. Ouais. Où pareil, il y avait de la visibilité. Mmh. Le Renard Pince nous accompagnait aussi.
À Châteaulin, ouais, Renard Pince.
Donc, ouais, tous ces petits accompagnements-là, de départ, en fait, nous ont aidés vraiment à, voilà, à avoir une...
À vous faire connaître.
Dans, ouais, sur le secteur 29, quoi. Mmh. Finistère. Sud.
Ensuite, voilà, on a beaucoup tourné, mais on restait quand même globalement en Bretagne. Et puis, c'est peut-être plus récemment, et encore que nous, on a quelques dates à Paris. Enfin bon, ouais. On a quand même on est resté à l'échelle France pendant un moment. Et puis, c'est ensuite après que tu essayes de vendre tes CD à l'étranger, que tu commences à payer un attaché de presse pour que lui fasse aussi de la communication sur, par le biais d'Internet, de la presse. Enfin, tout type de médias pour essayer de faire parler de toi ailleurs que de là où tu viens, quoi. Ouais. Essayer d'intéresser un public aussi mondial, du coup, du fait de ça. Et,
bon, on a eu des surprises, du coup. Enfin, des chroniques qu'on a eues à gauche à droite nous ont fait connaître, genre, l'autre jour, on a vendu un CD à Séoul. Enfin, c'est rigolo, quoi. Bon, c'est pas... C'est... des gens dans le monde qui découvrent notre musique aussi, ça reste une très petite échelle, mais c'est rigolo d'envoyer des CD au Brésil ou au machin.
Oui, on a eu
Brésil aussi. Brésil, ouais. Enfin, c'est surprenant et rigolo, et ce serait marrant d'aller jouer là-bas d'ailleurs, de profiter de ça pour
un futur projet.
Voilà, aller jouer à Séoul.
Tourner Asie.
Je sais pas trop si on a bien répondu.
Je pense que vous avez bien enrichi l'interview, c'est vrai. Okay. Vous avez bien répondu.
Oui. Merci.
Vous avez tout ce qu'on attendait, enfin même plus. Hein. Vous avez bien informé.
Bon. Merci en tout cas.
Merci bien.
Voilà.
Merci pour votre temps.
Donc c'était la radio du IKES, de la web radio du Collège Saint-Yves.